VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 5 minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord, les nouvelles. Au Gabon, la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle de samedi est en principe pour ce soir. Quelle est l'ambiance à Libreville, la capitale gabonaise? Pour la réponse, nous rejoignons notre envoyé spécial sur place, Idriss Fall.
Oui, Libreville, actuellement, toutes les rues sont désertes, les magasins ont fermé et la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, doit commencer sa séance plénière dans moins d'une demi-heure à 20h de Libreville et les discussions vont durer quand même quelques heures. C'est à l'issue de ces discussions que le ministre de l'Intérieur devrait annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Donc pour le moment, la ville est très très tendue. Donc le candidat de l'opposition, le principal candidat de l'opposition, Jean-Ping, a déjà proclamé deux fois qu'il est le vainqueur et au moment où nous parlons, il est en train de tenir une troisième conférence de presse et je ne crois pas que ce soit pour revenir sur ses propos. Et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Claude Alain Bilinze, vient juste de terminer lui aussi une conférence de presse où il accuse aussi bien Jean-Ping de manipulation, d'association avec des avocats français, notamment l'avocat qui défend la sœur du président Bongo qui avait porté plainte contre son frère à Paris. Il accuse notamment Mamadi Diané qui est actuellement conseiller du président Alassane Ouattara Livarien d'avoir cherché à corrompre des membres de la CENAP pour les demander de démissionner. Et donc c'est dans cette atmosphère électrique que l'on attend les résultats ce soir.
Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville, au Gabon. Politique en RDC, à deux jours du démarrage du dialogue national, Vital Kamerhe, leader de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, perd le numéro 2 de son parti, Jean-Bertrand Ewanga. Ce dernier, un député national, vient de démissionner de ses fonctions de secrétaire général de l'UNC pour cause de divergence avec son patron au sujet de la participation du parti au dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. On écoute Jean-Bertrand Ewanga au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ma présence au comité préparatoire m'a permis de conclure que l'opposition présente à ses travaux est prise au piège de la majorité, au point qu'elle n'a aucune autre issue, sinon que de servir de caution au coup d'État constitutionnel en gestation, à travers soit la révision constitutionnelle en gestation, soit le changement de la Constitution, ou encore le référendum inopportun, mais évoqué par certains caciques du pouvoir et dont le projet semble à portée de la main.
Jean-Bertrand Ewanga, député national de l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Somalie, au moins 5 morts et près de 30 blessés dans un attentat suicide organisé par les Chebab aujourd'hui à Mogadiscio, la cible d'un hôtel très fréquenté de la capitale à proximité du palais présidentiel. Eric Manirakiza.
Le véhicule piégé a d'abord forcé un premier checkpoint à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Les forces de sécurité ont immédiatement riposté. L'explosion s'en est suivie, provoquant un énorme nuage de fumée et des flammes qui ont envahi le ciel de la capitale somalienne. Selon l'AFP, une partie de l'hôtel s'est effondrée et d'autres bâtiments situés à proximité ont été endommagés. Les islamistes Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont aussitôt revendiqué l'attentat, le troisième en 18 mois contre le même hôtel. Celui-ci est situé non loin de l'enceinte ultra-sécurisée de la Villa Somalia, complexe fortifié qui abrite la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre. D'ici quelques semaines, le pays doit organiser des élections au suffrage indirect, dont la présidentielle le 30 octobre, mais les attentats qui se multiplient représentent une menace réelle sur ce processus.
Et vous terminez en Syrie, accord pour l'arrêt des hostilités pendant deux jours entre les forces turques et les milices kurdes, deux alliés de Washington dans le combat contre le groupe État islamique, mais opposés sur le terrain. Merci de votre attention, bonne soirée.
Heureux de vous retrouver, chers auditrices et auditeurs de Carrefour Sciences et Santé. Vous écoutez VOA Afrique, Eric Manirakiza avec vous. Aujourd'hui, nous faisons le tour d'horizon de certains pays sur le continent frappés par le choléra, le Burundi, le Centrafrique et l'Ouganda. Nous irons en Haïti pour parler toujours de choléra qui a fait près de 10 000 morts depuis octobre 2010, dont l'ONU a reconnu son rôle dans l'épidémie. Je vous invite également à découvrir les jardins de la Victoire au Malawi. Et sans doute que vous l'avez déjà appris, la Chine a lancé un satellite quantique, une première mondiale. Si vous voulez en savoir davantage, restez avec nous sur VOA. Je vous le disais tantôt, le choléra s'est déclaré dans certains pays africains. Cette épidémie est une maladie infectieuse qui se propage habituellement par l'eau contaminée. Elle cause une diarrhée sévère et une déshydratation et peut conduire à la mort si elle n'est pas traitée. La première destination, l'Ouganda. Des dizaines de cas ont été signalés dans un centre d'accueil pour les réfugiés sud-soudanais. Les autorités sanitaires tentent d'arrêter la propagation de la maladie, mais elles se heurtent au surpeuplement et à de fortes pluies en cours. Restons en Afrique de l'Est, mais cette fois au Burundi, ce pays à nouveau touché par une épidémie de choléra. Nous faisons le point avec le porte-parole du ministère de la Santé publique, Tade Ndikumana.
Depuis le 27 juillet 2016, nous avons observé une recrudescence de l'épidémie de choléra. C'est précisément le district sanitaire de Kabezi, dans Bujumbura, communément appelé Bujumbura Rural, et aussi le district sanitaire Mérisside, où nous avons jusqu'à aujourd'hui enregistré 99 cas de choléra. Mais grâce à l'intervention du ministère de la Santé et aussi grâce à la prise en charge gratuite des cas de choléra, 70 malades ont été traités et guéris, et maintenant ils font entrer dans leur ménage. Actuellement, nous restons avec 18 patients qui sont arrivés dans ces trois derniers jours. Nous déplorons un seul cas de décès qui est survenu suite à une complication liée à la diarrhée, mais aussi qui était liée au paludisme.
Comment expliquez-vous que le choléra revienne comme ça au Burundi? Ce n'est pas la première épidémie de choléra qui se manifeste dans votre pays?
Et effectivement, ça se observe surtout au niveau de la région de Limbo, parce que comme les études l'ont montré, les vibrio chorale se trouvent surtout au niveau du lac Tanganyika, et c'est au niveau de la plaine qu'on observe souvent des cas de choléra, mais à l'intérieur du pays, ces cas ne se observent pas. Et c'est lié surtout aux grandes agglomérations, mais aussi à ces réservoirs d'eau qui contiennent ces vibrio chorale, et consécutivement qui sont aussi liés au manque d'hygiène, surtout la non-disponibilité de l'eau potable. C'est pour cela que nous interpellons la population à toujours bouillir l'eau, surtout avant de le consommer pour tuer ces vibrio chorale, mais aussi de pouvoir appliquer les mesures d'hygiène telles que le lavage des mains avant de manger, mais aussi après les toilettes.
Merci Anastasie Toudièche pour cet entretien. Le Centrafrique, pays déjà ravagé par trois années de conflits intercommunautaires, a enregistré au moins 19 morts sur 161 cas depuis le début du mois d'août, dont un à Bangui, où il a été diagnostiqué par l'Institut Pasteur. La ministre de la Santé a invité la population à respecter les mesures d'hygiène de base pour endiguer l'épidémie. Nous avons joint le chargé des programmes au sein de l'OMS, le docteur Richard Fautzing.
Selon les différentes enquêtes qui ont été menées, les différentes investigations épidémiologiques qui ont été menées, le principal facteur, c'est la consommation de l'eau du fleuve qui est à l'origine de cette grosse épidémie qui touche principalement les villages qui sont situés le long du fleuve Ubangi.
Oui, donc c'est la consommation de cette eau. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures de prévention?
Les populations consomment l'eau du fleuve parce qu'elles n'ont pas accès aux points d'eau potable. Donc il n'y a pas de points d'eau aménagés ou des forages dans les villages, ce qui fait que les populations n'ont pour seul recours que l'eau